Le bulletin du handicap. Bonjour, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce jeudi 16 juillet 2015. Accessibilité déficiente, un trottoir 17 cm trop bas dans Côte-des-Neiges. Une psychologue sourde de l'Université Laval reçoit un prix d'excellence pour son mémoire. Une étude démontre que le handicap entrave le dépistage des cancers. Des véhicules adaptés mis en libre service en France. Et en paranatation, des finales et des records personnels au menu. La planification discutable de travaux de la Ville de Montréal force les résidents de Côte-des-Neiges à enjamber une marche de 17 cm pour passer de certains trottoirs à la rue. C'est dangereux, surtout pour les parents qui se déplacent comme moi avec leurs poussettes, insiste Dexter Policarpio, un père de famille qui habite le quartier. Le Journal de Montréal a constaté hier que les trottoirs d'au moins deux intersections du chemin de la Côte-des-Neiges étaient largement plus bas que la rue. Au coin de l'avenue Lacombe, juste en face de la station Côte-des-Neiges, la dénivellation frôle les 17 cm. Aucun cône orange ou avertissement n'indique aux citoyens la présence d'une si haute marche. Une personne en fauteuil roulant risque carrément de faire un flip par en avant, déplore Catherine Blanchette-Dallaire, fondatrice de l'organisme On roule au Québec, dont la mission est de faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite. La Ville de Montréal s'est bien défendue d'avoir mal planifié ses travaux. Un contrat de 3,3 millions, dis-je, a été accordé à l'entreprise Pavage Dorval pour la reconstruction des trottoirs et de la chaussée d'un tronçon du chemin de la Côte-des-Neiges. La majorité des trottoirs ont été complétés il y a deux semaines, mais la chaussée ne sera pas terminée avant l'automne. Les travaux débutent toujours par la reconstruction des trottoirs, assure le relationniste Philippe Sabourin. La réfection du côté est de ce chemin s'est amorcée lundi. On ne s'attaquera au côté ouest qu'en septembre prochain. Ainsi, les résidents de Côte-des-Neiges devront-ils patienter plusieurs mois avant que la marche de 17 cm de l'avenue Lacombe disparaisse? La ville aurait intérêt à au moins peinturer la chaussée en jaune près de trottoir pour avertir les résidents d'un dénivelé aussi intense, mentionne Catherine Blanchette-Dallaire. C'est un article de Judith Plamondon pour le Journal de Montréal. Sourde profonde depuis sa naissance, Rachel Filion, originaire de Beauport à Québec, n'a jamais baissé les bras. Malgré son handicap visuel, la jeune femme de 32 ans a terminé en 2013 un doctorat en psychologie à l'Université Laval. Sa persévérance et la qualité de son mémoire doctoral ont été soulignées dernièrement par l'Université Laval et l'Association des implantés cochléaires du Québec. En effet, elle a reçu en février le prix d'excellence du meilleur mémoire doctoral remis par la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Quelques mois plus tard, dans le cadre de leur programme d'incitation au dépassement, l'Association des implantés cochléaires lui a remis quant à elle une bourse d'études de 1 000 $. Deux petites attentions qui ont grandement touché Rachel Filion, maintenant résidente de Le Bourgneuf. Quand j'ai appris que l'université et l'association voulaient souligner mon parcours scolaire, j'étais sur un nuage. Je ne pouvais pas rêver mieux que d'être honorée par eux, souligne-t-elle. Rachel Filion a contracté un virus quelques semaines avant sa naissance, ce qui a fait en sorte qu'elle a dû composer avec une sourdité profonde dès le premier jour. Ce n'est que 11 mois plus tard que les médecins confirment sa sourdité. Dès lors, sa mère apprend le français signé afin d'être en mesure de communiquer avec elle. Les demandes, aussi simples qu'elles puissent être, devenaient de vraies charades. Après un certain temps, ma famille immédiate associait un son à une demande, mais je peux vous dire que c'était assez pénible de me faire comprendre. Je voulais parler, mais comme j'étais sourd, je ne savais pas comment prononcer un mot. Mon seul repère était le mouvement des lèvres. Ce n'est pas très précis, raconte-t-elle. Aujourd'hui, Rachel Filion travaille comme psychologue à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Un travail qu'elle trouve valorisant, puisqu'elle peut aider ceux qui sont dans une situation semblable à elle, semblable à ce qu'elle vit chaque jour. « Mon but dans la vie était d'aider les gens autour de moi et je crois que j'ai trouvé ma voie », conclut-elle. C'est un article du journal L'Actuel des Rivières et de la Haute-Saint-Charles. En France, un rapport a démontré il y a deux ans l'insuffisance des actes de prévention pour les personnes en situation de handicap. Cette semaine, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé le confirme. Dans une étude publiée récemment, on démontre les écarts de recours à certains actes de prévention en santé entre le public handicapé et le reste de la population. En moyenne, 80 % des Français participent au dépistage organisé des cancers du col, de l'utérus et du sein, 42 % à ceux du côlon et 45 % renouvellent leur vaccin contre l'hépatite B tous les 10 ans. Mais lorsqu'un handicap est déclaré, le recours à ces actes chute significativement, de façon plus ou moins importante selon le type de déficience. Pour le col de l'utérus, par exemple, le taux moyen de dépistage diminue de 21 points pour les personnes déclarant au moins une limitation visuelle et 17 points en cas de handicap moteur. Concernant la prévention du cancer du côlon et le vaccin contre l'hépatite B, la participation des personnes déclarant au moins une limitation motrice est inférieure de 13 points au reste de la population. L'étude pointe certains facteurs pour expliquer la faible participation des personnes handicapées à ces actes pourtant intégralement pris en charge. Certains spécifiques, comme les difficultés de réalisation du test hémoculte, et d'autres qu'ils sont moins. Elle avance ainsi à la méconnaissance du handicap par les professionnels de la santé, la tarification inadéquate des consultations nécessaires plus longues, ou encore le manque d'informations et d'accès aux soins des plus défavorisés. C'est un reportage d'Aurélia Sévestre pour fairface.fr. Acheter un véhicule adapté pour une personne à mobilité réduite n'est pas donné à tout le monde. Pour contourner ce problème, plusieurs voitures sont proposées en libre-service dans 22 villes de France par la coopérative Cities. Depuis quelques mois, les services d'autopartage de Bourgogne, Provence, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Franche-Comté et Lorraine se sont dotés de 10 nouvelles voitures aménagées. L'objectif permet aux familles et aux aidants professionnels de transporter des personnes à mobilité réduite sans se munir en aval d'un véhicule adapté personnel. Pas toujours bien remboursé, l'achat et l'aménagement d'un véhicule peuvent vite entraîner une facture salée, d'autant plus si celui-ci n'est utilisé qu'à de rares occasions, sans parler des tarifs de l'assurance et du coût de l'entretien. L'autopartage permet de contenter les petits porte-monnaies tout en donnant la possibilité de se déplacer à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir leur propre auto. Ce système offre une plus grande autonomie aux personnes handicapées. Pour profiter de ces services, il suffit de se rendre sur Internet, de s'abonner, de sélectionner la station Cities la plus proche, puis de réserver le jour et l'horaire durant lesquels on souhaite utiliser la voiture selon les disponibilités. De plus, il est possible de simuler le prix d'une facture. Une promenade de, par exemple, 14 km coûtera environ 24 euros à son utilisateur. C'est un texte de Kevin Murgu pour handicap.fr. Et en terminant en sport, pas moins de 4 Québécois ont été finalistes au troisième jour des championnats du monde de paranatation qui ont présentement lieu à Glasgow. Mercredi, Nicolas-Guy Turbide et Sarah Girard se sont notamment illustrés en inscrivant des records personnels. Turbide, qui nageait en finale du 100 mètres d'eau catégorie S13, a terminé 5e en enregistrant un temps de 1 minute, 2 secondes et 31 centièmes. L'athlète de Québec a établi du même coup un record des Amériques à cette épreuve, qui a été marqué par la victoire d'Ihar Boki de la Biélorussie, qui s'est imposée en réalisant un record du monde de 56 secondes et 74 centièmes. La brasseuse Sarah Girard a terminé 7e au 100 mètres de la catégorie S9. C'est ma première finale à vie au championnat du monde et en plus, j'ai amélioré mon record personnel de 2 secondes, a commenté la jeune nageuse qui a été la dernière à obtenir son billet pour la finale à l'issue des qualifications matinales. J'étais soulagée de voir que je faisais la finale. Une fois rendue là, je voulais donner le meilleur de moi-même, a-t-elle mentionné. Sa participation à une course de relais pourrait maintenant se confirmer. Les autres finalistes québécois du jour ont été Sabrina Duchesne et James Leroux. Duchesne de Saint-Augustin-de-Desmaures a conclu au 7e rang du 200 mètres 4 nages en un temps de 3 minutes 16 secondes et 32 centièmes. Quant à Leroux, il a obtenu le même rang au 100 mètres brasse S9. Le repentinois a arrêté le chrono à 1 minute 12 secondes et 63 centièmes. D'autres épreuves seront au programme de la journée de jeudi. C'est un texte de Mathieu Laberge pour Sportcom. Donc voilà, c'était les nouvelles d'aujourd'hui pour le bulletin du handicap. Les organismes peuvent toujours faire parvenir leur communiqué à canalem@vusezvoix.com. Je vous dis merci et à demain.